De toute façon, ça se discute même pas, c'est un ordre. Bah, pas vraiment, faut que je le répète combien de fois? Non. Écoute, que ça te plaise ou non, les communiqués de presse partent demain soir. Quoi? Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez, ce con.
Qui?
Ce con de Cholet. Fait n'importe quoi.
Qui est ce con de Cholet?
Fabrice Cholet, mon directeur de communication. Il fait n'importe quoi, je sais même pas pour qui il se prend. Tout ça parce qu'il a fait un master au States et puis HEC. C'est un petit merdeux, oui. Quand c'est bon, mais qu'il n'a pas l'expérience du terrain. Non, écoutez, je suis désolé, docteur, mais depuis hier, les tweets n'arrêtent pas de se déchaîner. En quelques heures, je suis devenu le symbole de la souffrance au travail pendant le confinement. L'homme à abattre. Alors justement, ce con-là, il pense qu'il faut répondre à ça avec tempérance. C'est son mot. Prendre son temps, ne pas se jeter dans la gueule du loup.
Un adepte de Nietzsche.
Pardon?
Oh, vous savez, le lento de Nietzsche. Un éloge de la lenteur. Faut prendre le temps nécessaire pour ne pas se jeter dans la gueule du loup.
C'est ça, vous allez voir, mais le loup, je vais lui attraper la gueule et le buter, fils. Hein. S'il pense que je vais me laisser traîner dans la boue sans réagir comme ça.
Monsieur Abgral, vous êtes très agité.
Vous pouvez m'appeler Alain. Non, j'aime pas beaucoup entendre mon nom de famille répété comme ça. Plusieurs fois.
Ah, et pourquoi?
Parce que plus il est répété, plus j'ai l'impression que c'est plus mon nom. Comme si je ne reconnaissais plus, alors ça me fout des angoisses. Quoi. Non, attendez, excusez-moi, faut que je prévienne ma femme, parce que avec le retard, là, je peux passer un dernier appel. Non, parce que je serais capable d'alerter Interpol.
Vous savez, Alain, si vous avez une urgence, on va fixer un autre rendez-vous.
Je réponds pas. Je pars 2 jours à l'étranger, quand je reviens, c'est le cataclysme. Tiens, tenez. Bon, tenez.
Mais qu'est-ce que vous faites?
Non, mais c'est pour m'excuser d'être au téléphone, je vous fais perdre votre temps, hein, je vois bien.
Mais vous réglerez en fin de séance?
Ben non, mais c'est pas le règlement de la séance, ça, c'est juste un bonus.
Rangez cet argent, s'il vous plaît.
J'essayais pas de vous soulever, c'est pas du tout mon genre. Hein. Ben bon, vous êtes honnête. C'est une qualité rare de nos jours. Ah, pardon, la fourche.
Bon, vous avez raison, vous allez me régler la séance et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Non, attendez, j'ai besoin de vous parler là tout de suite, là, maintenant.
Très bien, alors éteignez vos portables. Voilà, l'autre. Parfait, on va pouvoir commencer. Je vous écoute.
Bien, j'ai une réunion dans 1 heure. Je vais devoir décider comment répondre à toutes ces attaques. Donc, il faut que vous m'aidiez pour trouver les bonnes formules.
Bon, on va pas revenir là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas conseiller en communication.
J'ai besoin de vous. J'ai peur. J'ai peur de faire une crise de panique en plein milieu de la réunion.
Et pourquoi feriez-vous une crise de panique?
Parce que je suis épuisé. Voilà, ce voyage m'a éreinté.
Vous êtes parti en voyage?
Oui.
Où êtes-vous parti?
En Grèce.
Il s'est passé quelque chose avec votre fille?
Avant qu'elle nous s'en aille, on se parlait tous les jours, vous savez. Quand elle était petite, partout où j'étais, je l'appelais tous les soirs pour lui souhaiter bonne nuit. Et depuis qu'elle est partie dans ce camp en Grèce, elle me donne de ses nouvelles tous les jours. Même un petit SMS comme ça pour me rassurer. Et depuis 4 jours, plus rien. Science radio.
Et vous vous êtes imaginé qu'il lui était arrivé quelque chose?
Imaginez, vous pensez que je délire.
J'essaie de comprendre pourquoi, alors que votre entreprise se retrouve au cœur d'un scandale sans précédent, vous prenez le premier avion pour la Grèce sous prétexte que vous n'avez pas de nouvelles de votre fille.
Non, non, mais attendez, 4 jours de silence total. Donc, elle me cachait sûrement quelque chose. Donc voilà, il fallait que j'aille une cornette, quoi. Je tenais plus, j'étais trop inquiet.
Mais dans ces moments-là, vous savez que vous pouvez m'appeler. Nous aurions pu nous parler au téléphone, ou même organiser une séance.
Bon, ben, j'y ai pas pensé. Mon cerveau était en boucle, je commençais à plus pouvoir respirer. Vous savez, on dit que seules les mères ont une sorte d'instinct avec leurs enfants. Ben, moi, je suis pas du tout d'accord, parce que moi, j'ai un instinct, moi, avec ma fille. J'étais sûr qu'elle me cachait quelque chose. D'ailleurs, en arrivant là-bas, j'en ai eu la confirmation.
Qu'est-ce qu'elle vous cachait ?
Anouk avait des cheveux très longs, très beaux. Elle était connue pour ça. Et maintenant, plus rien.
Plus rien, vous voulez dire le crâne rasé ?
Non, non, non. C'était pas non plus comme... l'actrice qui est avec Belmondo, là, qui descend les Champs-Élysées, là, le film culte, là.
Jean Seberg ?
Oui. Non, c'était pas comme ça, c'était... Mais avant, Anouk avait les cheveux d'une princesse, quoi, c'était... Puis maintenant, c'est là, c'est commun, quoi, c'est...
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Mais vous imaginez pas l'état du camp. Depuis le Covid, les autorités grecques ont bloqué les réfugiés pour que le virus ne se propage pas sur l'île. Et, si vous voulez, ils préparent l'été, enfin, ils préparent l'arrivée des touristes, quoi. Bon. Et donc, du coup, ils ont parqué les gens, mais dans des conditions complètement abominables. C'est inhumain. Et plus personne s'en occupe. Il y a des centaines de familles entassées sous les tentes, comme ça. Et donc, avec l'épidémie, la plupart des bénévoles sont repartis dans leur pays. Très peu sont restés dans le camp. Et ma fille, elle fait partie de cela. Vous ne croyez pas ? Vous pensez que j'exagère ? Non, mais attendez, j'ai pris des photos. D'ailleurs, je les ai prises pour vous, parce que je me suis dit, il va pas me croire. Il faut des preuves.
Non, non, mais j'ai pas besoin de les voir.
Non, mais attendez, non, mais faites les défiler, là, je les ai là.
Non, je... Rangez cet appareil, racontez-moi plutôt comment votre fille a réagi quand elle vous a vu.
Quand j'ai enfin réussi à rentrer dans le camp, j'ai passé un moment à l'observer de loin. Avec ses cheveux plus courts, sa fatigue aussi, j'avais du mal à la reconnaître. C'était... comme si elle avait grandi, enfin, plutôt comme si elle avait vieilli d'un coup. Elle était en train de disputer avec un adolescent, un grand échalas. Elle avait dû se battre parce qu'elle avait l'arcade sourcilière qui pissait le sang.
Elle ?
Non, l'adolescent. Mm-hmm. Et malgré ça, ma fille parlait avec lui comme si la situation était normale. Moi, j'en croyais pas à mes yeux de la voir si... à l'aise, quoi, dans ce contexte-là. Comme si plus rien ne choquait. Puis soudain, elle m'a vu. Elle a foncé vers moi et elle m'a demandé si sa mère allait bien. Alors moi, j'ai tout de suite rassuré. Et du coup, elle m'a demandé ce que je faisais là. Et là, franchement, j'étais tellement choqué que j'ai crié dessus. Voilà. Prends tes affaires, viens avec moi, tout de suite, rentre à Paris, quoi. Là, elle est restée calme, distante même. Elle m'a montré l'adolescent blessé, elle m'a dit qu'elle devait le soigner. Non, mais la soigner, comme si elle était comme ça d'un seul coup, diplômée en médecine, quoi. Mmh. Alors elle m'a dit qu'elle me retrouverait après, pour dîner sous la grande tente. Elle m'a montré un endroit où je pouvais me poser en attendant. Et là, il y avait un lit minuscule avec ses vêtements. Là, j'ai compris qu'elle dormait là, quoi. Elle vivait dans le camp, maintenant, là, à l'intérieur du camp, carrément.
Qu'est-ce qui s'est passé au dîner quand vous vous êtes retrouvés ?
Oh, j'ai pas attendu le dîner. J'ai ramassé ses affaires, j'ai marché jusqu'à la sortie du camp, le taxi m'attendait. Je voulais retourner à l'hôtel, quoi, mais ne serait-ce que pour, je sais pas, laver ses vêtements. Mais surtout, je pensais qu'elle me rejoindrait, qu'on irait dîner en ville, puis que je parviendrais à la raisonner. Mais j'étais pas sorti du camp quand elle a déboulé, en me hurlant dessus, mais des absurdités, quoi.
Quelles absurdités?
Et qu'elle avait travaillé dur pour gagner la confiance de ces gens, et qu'en 2 minutes, j'avais tout bousillé avec mon costume Kenzo et mes pompes à 3000 balles.
Ça vous étonne qu'elle ait été à ce point énervée contre vous?
Non, mais attendez, c'est pas fini. Parce que quand je rentre à l'hôtel, elle m'avait envoyé un mail. Et un mail d'insulte. Là, d'un coup, elle avait tout trouvé le temps de m'écrire. Hein. Tiens. Maintenant, vous préférez que je vous raconte. Alors, elle a écrit j'étais un tyran, obsessionnel. Non, mais attendez, elle a choisi ses mots. Un putain de dictateur. Elle me disait aussi que c'était impossible de grandir avec moi, de se construire à côté de moi. Qu'en venant, j'avais détruit sa dernière chance de se libérer de moi. Je sais pas, cet endroit l'a rendu folle, non, on est d'accord, là.
Mais visiblement, ça vous rend fou aussi. Essayons de prendre un peu de recul, vous voulez bien?
Je peux bien.
Vous êtes dévoué dans votre travail, malgré la crise que vous traversez depuis le suicide de cet employé, Myriam Kadi, c'est ça?
Oui.
Vous tentez de surmonter l'épreuve et de faire face au déferlement de reproches qui vous tombent dessus.
Oui.
Par contre, quand vous ne contrôlez pas tout, comme ici, en tant que patient, ou lorsque vous êtes allé chercher votre fille en Grèce, c'est beaucoup plus inconfortable.
Attendez, j'ai jamais essayé de contrôler Anouk. Moi, j'ai comblé le moindre de ses désirs depuis qu'elle est toute petite, mais comme un bon père doit le faire pour l'épanouissement de ses enfants.
Ça vous est insupportable de la laisser vivre sa vie? Votre fille ne vous a pas écrit pendant 4 jours parce qu'elle était sûrement très occupée.
Non, mais c'est forcément de la gérance de demander comment va sa fille quand elle vit dans un endroit pareil.
Mais vous ne saviez pas comment elle vivait avant d'y aller.
C'est vous, la semaine dernière, qui m'avez dit que c'était normal que je m'inquiète pour elle. C'est même vous qui avez fait le lien entre Anouk et mon frère.
J'ai évoqué l'idée que votre fille puisse sortir de votre champ de vision, sans que ce soit forcément le signe d'un drame à venir.
Mais non, mais vous m'avez mis dans la tête des idées complètement intenables, avec vos interprétations à la con. Vous avez suggéré que ma fille allait mourir comme mon frère. Alors ça va? Ça va?
Vous n'allez pas me museler, comme vous dites, avec vos coups d'éclat qui ne m'impressionnent pas. Tant qu'on n'arrivera pas à faire redescendre votre colère, le travail n'avancera pas.
Ah merde, j'ai fourré encore celle-là. Chaque fois, c'est toujours pareil. Merde. Ah si, je les sens. Les bonbons magiques.
Qui vous a prescrit ça?
Mon boulanger. Pratique, c'est cacheton, ça mange bien.
Vous en prenez souvent?
Tiens, je vais raconter un bon exemple. C'est bien ça quand je raconte, non? Donc, à l'hôtel, je me suis réveillé au milieu de la nuit, un sursaut. J'avais du mal à respirer. J'avais fait un cauchemar. Anouk disparaissait dans une immense forêt. Comme ça, au fond d'une espèce de gouffre dans la roche. C'était terrifiant.